Bonjour, ici Célia Héron, hôte et coproductrice du podcast Brise-Glace. Avant de vous laisser plonger dans notre toute nouvelle série audio, il n'y a qu'à m'expliquer, un mot pour vous signaler que les podcasts du temps se développent. Découvrez Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique, et bien d'autres encore sur la page letemps.ch/podcast. Et j'en profite pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement web et print sur la page letemps.ch/abonnement au pluriel. Bonne écoute!
Je me souviens très bien du premier soir où je suis arrivé au séminaire. Je m'étais dit en chemin, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis pas en train de faire une connerie? Est-ce que c'est pas un coup de tête qui m'a amené ici? Et puis je suis en train de perdre une année puisque l'année universitaire avait déjà commencé. Toute la journée, j'avais en tête, en fait, ça me correspondra pas du tout. Je veux bien essayer, mais je ferai attention à ce qu'on me change pas. Il faut pas que je me laisse embobiner, il faut que je reste moi-même pour réussir à vraiment faire un choix pour la suite.
Bienvenue dans la saison 2 de Brise-Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Très jeune, Valentin a eu une certitude, il consacrera sa vie à Dieu. À l'âge où les ados multiplient les expériences de vie, d'amour, de voyage, il a choisi d'aller à la rencontre de lui-même en plongeant dans la religion. Du haut de ses 25 ans, il raconte aujourd'hui sa démarche, pas toujours facile à expliquer autour de lui, au micro de Brise-Glace.
Alors, je m'appelle Valentin, là j'ai 25 ans et je suis au séminaire, ça veut dire que je suis en formation pour devenir prêtre dans l'Église catholique. Et je suis au séminaire déjà depuis 5 ans maintenant, sur une formation qui dure 7 ans. J'ai baigné dans la religion depuis déjà tout petit, parce que je viens d'une famille catholique, une famille pratiquante, avec des parents qui m'ont élevé dans la foi. Donc on priait en famille quand on était petit, le soir avant d'aller au lit. On allait à la messe le dimanche, et puis on essayait de vivre un peu les temps forts de la vie de l'Église. Quand je dis que j'ai reçu la foi de mes parents, c'est que je les voyais pratiquer, et puis en fait ils en parlaient aussi. Ils n'étaient pas tout le temps d'accord, mais ils discutaient beaucoup sur la foi, sur les sujets de religion. Je me rappelle par exemple quand on rentrait après la messe du samedi soir et puis que ma maman proposait de faire une prière encore avant d'aller au lit, mon papa disait mais c'est bon, on a assez prié, pas besoin de, il faut laisser le bon Dieu un peu tranquille. Tout récemment, il y a une amie avec qui j'étais à l'école primaire qui m'a dit toi quand t'étais petit tu disais toujours que tu voulais devenir prêtre, alors que je m'en rappelle pas du tout. Peut-être que c'est quelque chose qui était déjà un peu présent en moi depuis tout petit, que dans la vie, on peut être marié, on peut être célibataire et on peut être prêtre, puisque j'en connaissais des gens qui étaient consacrés à Dieu. Il y a des prêtres amis de la famille qui passaient à la maison, c'était même en fait des copains à mon papa qui ils allaient faire de la montagne ensemble, et puis je me rappelle d'un copain à mon papa qui était prêtre, qui quand j'étais tout petit m'avait pris puis m'avait fait marcher au plafond, et j'avais trouvé ça trop cool. Enfin, j'ai retenu ça, une image toute simple du prêtre qui est pas du tout perché.
Est-ce que vous vous souvenez pourquoi vous priez à l'époque?
Pas vraiment. Je me souviens de la première fois où je me suis dit, y a quelque chose à vivre dans la relation avec Dieu. Alors, je sais pas vraiment dire quel âge j'avais, peut-être 8, 9 ans, quelque chose comme ça. C'était une fois à la messe. Où j'avais pas du tout écouté ce qui se passait. J'étais avec mon cousin et puis on faisait que de chuchoter et de s'embêter pendant la messe. Et puis à la fin, mon papa m'avait fait une remarque puisqu'il était pas à côté de moi. Il avait pas pu me dire pendant la messe, mais il me l'avait dit à la fin. Et je me rappelle que j'avais pris un temps après ça pour vraiment parler à Dieu puis de lui avoir dit désolé, c'est vrai que j'ai été bête. Je pense que c'est la première fois où je me rappelle d'avoir parlé à Dieu.
Vous le tutoyez ou vous le voyez?
Ah, je lui dis tu. Oui, pour moi c'est quelqu'un de proche. Dieu c'est pas quelqu'un d'extérieur qui a quelque chose à m'imposer ou même. Dieu pour moi c'est celui qui m'aime, qui m'a créé, qui m'a donné la vie et puis qui me pousse à sortir de moi-même. Enfin surtout quand je reste un peu coincé dans mes idées ou quand j'ai pas envie de rencontrer les autres gens qui sont à côté de moi. C'est lui qui vient me dire. Vas-y, il faut que tu sortes de toi-même, tu peux pas rester dans ton coin, sinon tu vivras jamais, ta vie elle sera nulle. Je me souviens d'avoir été très marqué par les quelques décès qu'il y a eu dans ma famille. À chaque fois, c'était pour moi un grand mystère de me dire, pourquoi il est parti. Je pense particulièrement à mon arrière-grand-maman. Donc, c'est une arrière-grand-maman, c'est quand même assez loin dans les générations. Mais en fait, je pense que c'est un âge où je me posais beaucoup de questions. J'avais 12 ans. Et là, je me rappelle d'avoir beaucoup pleuré et puis de m'être beaucoup posé la question, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est morte? Pourquoi elle est partie? Et d'avoir prié pour demander à Dieu de l'accueillir et de m'éclairer et puis de me dire, on va tous mourir un jour. Et ben moi, j'aimerais demander à Dieu de m'aider à vraiment vivre avant le moment où je partirai.
Est-ce que pour vous, c'était naturel de continuer dans cette voie-là, même adolescent?
Alors, j'ai jamais lâché. Enfin, disons, de manière globale, j'ai toujours continué à prier et puis à aller à la messe. Mais il y a eu des étapes. Il y a des moments où je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'avais reçu, quelque chose qui était ancré en moi, mais que j'avais besoin de l'approfondir et puis de choisir de le vivre vraiment pour que je puisse avancer dans ma relation avec Dieu, avancer dans la vie, et pas juste continuer à pratiquer sans que ça veuille rien dire pour moi. Alors, il y a pas eu de grosse rupture, ça s'est fait petit à petit, où j'ai, à un moment donné, j'ai choisi de continuer à aller à la messe tous les dimanches, même si le programme de mes week-ends n'était plus du tout celui de mes parents et puis que je devais m'organiser moi-même.
Est-ce que ça étonnait vos amis adolescents que vous continuiez, même une fois que vous n'étiez plus obligé d'y aller avec vos parents?
C'est quelque chose dont je parlais pas beaucoup avec mes amis. Pour moi, c'était pas tabou parce que j'avais honte de croire ou d'aller à la messe, mais je pense que c'est plus que j'aurais pas trop su quoi dire si à 15 ans il y a quelqu'un qui m'avait dit: ah mais toi tu crois en la résurrection, c'est quoi, qu'est-ce que ça change pour toi? J'aurais pas trop su quoi répondre, et c'est peut-être pour ça que j'en parlais pas.
Donc il y a personne avec qui vous pouviez partager cet intérêt-là?
Si, il y a des amis avec qui je pouvais en parler, en fait d'autres amis qui allaient aussi à l'église le dimanche. Et j'ai fait des camps de jeûne et des choses comme ça organisées par l'église où là on pouvait parler du coup de ce qu'on vivait. Mais jusqu'à mes 18 ans, j'ai pas beaucoup parlé de religion, hein, avec mes amis de classe, mes amis de sortie en montagne ou comme ça. Mais les premières questions sont venues à la fin de mon collège, quand j'ai choisi de faire une année d'études chrétiennes. Là, j'ai des amis qui m'ont dit justement: ah mais tu fais ça parce que tu veux devenir prêtre comme ça. Pas du tout. Moi, c'était pas du tout le choix d'entrer au séminaire ou de devenir prêtre, pas encore. Moi, c'était juste une démarche de vouloir approfondir ma foi et de vouloir vivre vraiment, puisque je me disais: tiens, il y a quelque chose à vivre avec la foi. Ça, elle a quelque chose à m'apporter pour ma vie de tous les jours aussi, même pour mon futur choix de travail.
À quel moment alors est-ce que vous vous dites que ça pourrait devenir un choix de vie?
Le premier moment où j'ai imaginé me consacrer à Dieu, c'était quand j'avais 19 ans, au moment de Pâques, puisque c'est le moment le plus important dans la vie des chrétiens, avec la mort et la résurrection du Christ. J'étais allé faire une petite retraite de 3 jours dans un monastère chez des sœurs qui vivent en silence. J'en ai vu qui étaient resplendissantes, qui avaient l'air très joyeuses, alors que, bon, comme vie, c'est pas le truc qui fait rêver. Et du coup, j'ai vécu aussi ça, d'être en silence pendant 3 jours, avec seulement les prières, 5 prières par jour. Et ce moment de silence, il m'avait fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien, déjà, de prendre du recul sur mon quotidien. Beaucoup de bien de prendre 3 jours sans mon téléphone. Et beaucoup de bien aussi, de prendre ce temps pour le vivre avec Dieu, en essayant de l'écouter tout simplement. Dans la vie de tous les jours, avec les exigences de devoir faire des devoirs, écrire des travaux, étudier, j'avais jamais forcément pris le temps de me poser pour me dire qu'est-ce que je veux vraiment, enfin qu'est-ce qu'il y a d'essentiel dans ma vie, et puis de le demander à Dieu.
Et alors, il avait quelque chose à vous dire?
Il m'a dit que si je choisissais de continuer avec lui, je pourrais être heureux. Il me l'a montré simplement en fait à travers ses sœurs qui vivaient dans le silence, toutes consacrées à lui et qui étaient heureuses. Mais donc ça, c'était le premier moment à 19 ans où c'est pas là tout de suite que j'ai choisi de devenir prêtre, puisque ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais après ce moment-là, j'ai choisi de pas partir tout de suite dans des études scientifiques comme je voulais faire, mais de faire une année d'études chrétiennes pour approfondir ma foi. Puisque c'était une année qui permettait d'avoir des temps de prière, des temps de formation intellectuelle, et puis surtout de côtoyer plus d'autres jeunes chrétiens qui aussi se posaient des questions. Donc, tout le monde n'est pas du tout entré au séminaire ou comme ça, mais ça permettait de partager vraiment sur notre foi entre jeunes chrétiens.
Vous destinez à quoi si ça n'avait pas été ça?
Ça aurait été plutôt la physique à l'école polytechnique. Puisque c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, en fait, le défi des sciences qui est très intéressant. En fait, je suis un scientifique dans l'âme qui aime bien chercher, qui aime bien calculer, et puis comprendre un peu le monde qui l'entoure. Mais donc quand j'avais 20 ans, c'est un peu le moment où j'ai accepté de me dire à moi-même et puis de dire aux autres, bah tiens, je vais devenir prêtre. À ce moment-là, j'ai choisi d'entrer au séminaire, et c'est 7 ans de formation et de discernement avant de s'engager définitivement. Donc en fait, c'était un choix de polichinelle, un petit, simplement une entrée. Mais je l'ai fait puisque ça faisait une année à peu près que cette question de la vocation et de me consacrer à Dieu était venue dans ma tête. Et en fait, j'avais le choix soit de ne pas l'écouter et puis du coup de balancer ma foi et d'essayer de construire une autre vie, ou de l'écouter jusqu'au bout et puis de faire ce pas d'entrée. C'est le choix que j'ai fait.
Vous vous souvenez d'en avoir parlé à votre famille?
Alors oui, j'en ai parlé assez rapidement à ma famille, en fait, même avant que la décision soit définitive. Et mes sœurs ont eu des réactions très drôles, puisqu'elles m'ont dit « Ah, ben alors c'est très bien, tu pourras nous marier. » Bon, elles ont forcément pas attendu 7 ans, puisqu'elles étaient déjà presque prêtes à se marier à ce moment-là. Mais en fait, mes parents, ça leur a fait un petit choc au début, puisque c'est pas le choix que eux ont fait, puisqu'ils ont choisi de se marier, ils ont choisi de s'engager dans le monde, dans l'associatif, tout ça. Du coup, ils ont été un peu surpris au début. Alors, ma maman est très émotive, alors elle a un peu pleuré. Mais en fait, mon papa, ça s'est pas manifesté de manière très très extérieure, disons. Il a simplement pris le temps de me parler, et on est allé faire du sport ensemble, puisque quand on court ensemble, on peut parler, disons, à un rythme tranquille. Mais on avait eu une bonne discussion sur la vision de la vie, qu'est-ce qui était l'essentiel pour moi, et en fait, qu'est-ce que je veux transmettre à d'autres par le choix que je fais. Je lui avais répondu, ce que je voudrais apporter aux autres, c'est les aider à rencontrer Dieu, cette rencontre que j'ai fait moi-même, et j'aimerais transmettre un peu cette relation, aider d'autres à la faire aussi, cette rencontre.
Vous rentrez donc au séminaire. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour?
Je me souviens très bien du premier soir où je suis arrivé au séminaire. Enfin, en fait, j'ai complètement galéré. J'avais pris le train assez tard, le dernier train pour arriver à l'heure ici. Bon, j'avais un gros sac lourd, et puis j'avais dû marcher depuis la gare puisque je m'étais trompé de bus. Et je m'étais dit en chemin, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis pas en train de faire une connerie? Est-ce que c'est pas un coup de tête qui m'a amené ici? Et puis je suis en train de perdre une année, puisque l'année universitaire avait déjà commencé. Et ensuite, ce qui m'a surtout marqué, c'était le lendemain dans les topos où on nous présentait comment allait se passer la formation, surtout la première année qui est une année de discernement pour découvrir un peu ce qu'est le séminaire. C'était simplement la présentation du rite de prière et puis du rite des repas et puis de comment allaient se passer les cours. On a 5 prières par jour. Puis le matin, ça commence à 6h40 la journée. Ensuite, on mange tous les séminaristes ensemble. Et ensuite, on a une prière à midi aussi avec le repas de midi ensemble. Une prière le soir avant le repas du soir, et puis une prière encore juste avant d'aller se coucher. Et tous les jours, on ajoute à ça une demi-heure de prière silencieuse qu'on fait ensemble. Et c'est tout des trucs qui, au moment où j'ai débarqué, j'aimais bien prier un petit peu comme ça tout seul, mais j'étais pas trop habitué à avoir un rite de prière régulier avec d'autres. Et toute la journée, j'avais en tête, en fait, ça me correspondra pas du tout. Je veux bien essayer, mais je ferai attention à ce qu'on me change pas, à ce que je reste toujours le même, et à ce qu'on me fasse pas devenir quelqu'un d'autre, qu'on me fasse pas de lavage de cerveau ou comme ça. Il faut pas que je me laisse embobiner. Il faut que je reste moi-même pour réussir à vraiment faire un choix pour la suite.
Il y a des réactions au moment où vous êtes rentré au séminaire qui vous ont blessé, de par vos amis, par exemple, ou...
Étonnamment, non. Il n'y a pas d'amis qui ont coupé les ponts ou qui m'ont dit « Ah, mais c'est une connerie ce que tu fais ». Enfin, pas de réaction violente. Alors, si, il y a des réactions un petit peu drôles qui m'ont dit « Ah non, mais t'es jeune et beau, qu'est-ce que tu vas faire curer? T'as rien à faire ça, tu vas te les faire pleurer. » Bon, c'est des choses qui m'ont fait rigoler, on a bu un verre et puis c'était bon. Mais j'ai pas eu vraiment de réaction très violente, mais je vois avec le temps qu'il y a des relations avec certains amis qui ont eu besoin de beaucoup de temps pour qu'on puisse en parler ensemble. On en a pas parlé peut-être pendant 4 ans, alors qu'on se voyait toujours pour boire des verres ou pour faire des choses ensemble. Mais au bout d'un moment, même si on partage pas du tout notre foi et puis qu'on vit des chemins de vie très différents, au bout d'un moment, les choses se posent quand même et puis on arrive à parler des sujets qui nous tiennent à cœur sans se taper dessus. J'ai une amie aussi qui m'avait dit, mais tiens, plutôt que d'entrer dans un truc comme ça, tu ferais mieux d'aller découvrir le monde et puis de voyager, ce qu'on fait quand on est jeune. Bah moi j'avais répondu du coup, bah non, moi ce que je veux faire, c'est d'abord essayer de me découvrir un petit peu moi-même et puis de me construire et ensuite je pourrais découvrir le monde. Ce que d'ailleurs, j'ai pu faire un petit peu puisque la formation nous permet aussi de voyager et quand on a la foi et puis qu'on voyage, surtout quand on est catholique, c'est assez génial puisque on peut arriver en fait dans n'importe quel pays et on va à une messe et c'est à peu près la même chose que ce qu'on a ici où on se retrouve, on peut prier avec d'autres catholiques. Là, j'ai eu la chance l'année passée d'aller en Chine un petit moment où la première messe que je suis arrivé là-bas, j'ai vraiment rien compris à tout ce qui était dit, mais en fait j'ai compris tout ce qui se passait puisque c'est la même chose, c'est aussi des gens qui croient en Dieu et puis qui vont à leur célébration du dimanche pour la vivre ensemble et pour louer Dieu. C'est assez génial de voyager quand on a la foi.
Est-ce que avant de rentrer dans le séminaire, vous aviez été amoureux ou vous aviez été dans une relation quelconque?
Oui. La question du célibat, c'est une question qu'on pose souvent à un séminariste. Et c'est une question qu'on doit se poser aussi quand on est au séminaire, forcément. Moi, j'ai eu un peu de chance, en fait, de me la poser tout de suite. Puisque j'ai réussi entre le moment où j'ai décidé d'entrer au séminaire et puis le moment où je suis vraiment rentré, il y avait un mois et j'ai réussi à tomber amoureux pendant ce mois-là. Et du coup, j'ai appris tout de suite à me dire, voilà, je tombe amoureux, c'est pas la mort, enfin c'est même plutôt la vie de tomber amoureux d'ailleurs. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Soit j'aménage ma vie pour pouvoir suivre mes sentiments, soit j'essaye d'aménager mes sentiments pour continuer à vivre.
Comment vous lui avez dit?
Comment je lui ai dit à la fille? Ah, je lui ai pas dit justement, je lui ai pas déclaré ma flamme à ce moment-là. Pour moi, c'était pas le moment puisque j'avais choisi d'entrer au séminaire et je me suis dit bon, je vais suivre ce choix que j'ai fait. Je vais aller à cette année de discernement. Je vais avancer un bout et puis si ça va pas du tout, je réévaluerai les choses dans 2, 3 mois.
Et la sexualité en soi, c'est quelque chose qui vous manque ou pas trop?
Je sais pas vraiment comment répondre. Je dirais que la sexualité, c'est pas quelque chose qui me manque, puisque la sexualité, c'est une force qu'on a en nous, une énergie que j'ai en moi, que j'exerce pas comme quelqu'un exerce avec sa femme. Mais j'essaye de transformer un petit peu cette énergie de vie que j'ai en moi, quand même, pour les intérêts que j'ai, pour ce qui m'est demandé dans ma formation. Disons que pour moi, l'image que j'ai du prêtre, c'est quelqu'un de célibataire qui arrive à être complètement comblé par Dieu.
Est-ce qu'il y a, avec cette fonction de prêtre, ou en tout cas les études qui y mènent, d'autres choses auxquelles vous avez dû renoncer?
Oui. En choisissant d'entrer au séminaire, j'ai choisi de me former pour devenir prêtre, mais j'ai pas choisi le type de formation que je ferais. Je suis au séminaire ici, je suis les cours qu'on me propose et je pense que le plus gros renoncement que je dois faire, c'est que c'est pas vraiment moi qui gère mon programme. Oui, disons la formation est assez exigeante puisqu'on suit les cours à l'université et puis les week-ends, souvent on est en paroisse ou alors on est au séminaire, on fait un peu des heures sup, des cours en dehors de l'université entre nous au séminaire. Alors ouais, je pense que un des renoncements qui m'a demandé en plus du célibat, c'est de renoncer à faire moi-même mon programme et puis à plutôt me laisser guider par ce qu'on me demande et puis les exigences. Quand il y a un ami qui organise un week-end en montagne, puisque moi je choisis pas vraiment mes disponibilités, je peux pas m'organiser pour me dire, tiens, je vais aller avec lui. Soit ça tombe bien sur un week-end où je suis libre, soit ça tombe mal et puis je peux pas y aller. Puisque Le prêtre, il est dépendant un peu de tout ce qu'on lui demande dans la paroisse. Et puis, bah, s'il y a quelqu'un qui meurt, il doit l'enterrer. Si quelqu'un lui demande pour un baptême, il doit dire oui. Et donc, il apprend à être, on apprend au séminaire à être complètement disponible et c'est ce qu'on devrait être par la suite. Là, il me reste 2 ans, grosso modo, pour ma formation. Et ensuite, je serai ordonné prêtre, si Dieu veut. Après, je serai envoyé, en fait, en paroisse, du coup, dans mon diocèse, en Valais. Je choisirai pas la paroisse. C'est l'évêque qui choisit pour nous. Ça, en fait, c'est déjà lui donner. Et puis, en fait, je suis plutôt content de ça, puisque, à part la paroisse dans laquelle j'ai grandi, et puis la paroisse dans laquelle je vais régulièrement pendant ma formation, les autres, je les connais pas. Moi, j'essaierai simplement de recevoir la paroisse qui me sera donnée et d'y accomplir le mieux la mission que j'ai d'essayer d'aider les gens à rencontrer Dieu.
Comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il y ait si peu de jeunes aujourd'hui qui ont la foi?
Je me pose la question, est-ce que la foi leur a été aussi bien présentée qu'à moi? Enfin, moi, comme on m'a présenté la foi, c'est tellement beau et c'est tellement attirant que ça m'a trop donné envie d'y aller, de creuser. Donc moi, vu que j'ai reçu la foi en bonne partie de la part de mes parents, en fait, il y a ce côté un peu éducatif où mes parents m'ont donné la vie, c'est eux qui m'ont donné un peu un cadre dans lequel je pouvais me développer sans en même temps m'enfermer, sans me dire ce que je devais faire. Et puis, à travers ce cadre de parents qui m'ont aimé, j'ai vu un petit peu de comment Dieu s'occupe de nous et puis comment il nous aime et comment il veut le mieux pour nous sans nous coincer. Et je pense que malheureusement, il n'y a pas tous les jeunes qui ont cette expérience, même si on fait forcément l'expérience de quelqu'un qui nous aime et puis il y a quelque chose de Dieu là-dedans derrière pour moi, mais on le voit pas forcément.
Qu'est-ce que vous diriez à celui ou celle qui ne comprend pas du tout qu'on puisse faire ce choix?
Je pense que je lui dirais simplement de creuser un petit peu les aspirations les plus profondes qu'il a au fond de lui, puisque moi c'est en creusant ce que je vivais déjà, pourquoi je suis là, pourquoi la vie, pourquoi la mort, enfin bref les grandes questions, c'est ça qui m'a amené à me poser la question de quelqu'un de plus grand que moi qui gère un peu tout ça.
Il y a beaucoup de voix qui se sont élevées récemment pour noter le fait que la foi, c'est une chose, mais que le cadre de l'Église et ses positions, notamment sur l'homosexualité, la légalisation du mariage gay, la PMA, n'étaient plus en accord avec la société dans laquelle on vit en 2019.
En fait, je pense que le cadre que donne l'Église ou les positions sur lesquelles on dit qu'elles restent figées, oui, elles sont inspirées de l'Évangile, mais elles sont pas l'Évangile. Donc, ce qui compte dans l'Église et puis dans la relation à Dieu et pour moi, c'est l'Évangile, c'est ce que Dieu a vraiment à nous dire. Et entre l'Église et puis les mouvements qui revendiquent la PMA, qui revendiquent le mariage gay, il y a un dialogue de sourds puisque on imagine que l'Église impose ça à tout le monde, alors que c'est pas ça, c'est un chemin qui est proposé à ceux qui se laissent inspirer par l'Évangile.
Est-ce qu'il y a eu des moments, ou est-ce qu'il y a encore des moments où ça vous est arrivé de douter de ce choix?
Oui, il y a des moments où il m'arrivait de douter. En fait, des moments où je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas moi qui me suis inventé un appel à devenir prêtre? Puisque je savais pas quoi faire d'autre dans ma vie ou même dans l'engagement à vie que je ferai quand je deviendrai prêtre, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup puisque je vais pouvoir me donner vraiment à ceux qui m'entourent, à ma mission, aux paroissiens qui me seront confiés. Et en même temps, c'est quelque chose qui me fait peur puisque je me dis c'est vrai que c'est pour toute la vie, je vais grandir, je vais évoluer, est-ce que j'arriverai à tenir cet engagement que je prends? Mais en fait, j'arrive à traverser un peu ces moments simplement en me disant de toute façon je vais pas revenir en arrière, là ça fait 5 ans que je suis au séminaire, je regarde un peu qu'est-ce que j'ai vécu déjà jusque-là et puis est-ce que j'ai envie de continuer ou est-ce que j'ai envie de renier tout ce que j'ai déjà fait jusque-là, est-ce que j'ai envie de creuser, est-ce qu'il n'y a pas des choses un peu positives qui se sont passées, et puis je vois que en fait c'est trop beau et que depuis que je suis au séminaire et depuis que j'ai accepté que Dieu pouvait faire quelque chose pour moi dans ma vie, la vie, elle a pris une dimension beaucoup plus belle puisque je suis plus tout seul. Je sais que je peux toujours compter sur Dieu lui demander de me guider, même si je vois pas toujours où je vais. Je vais lui demander son aide et puis bah, en général, les moments de doute, ils passent.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. Et puisque vous êtes encore là, j'en profite pour vous encourager à aller écouter Rafu, un podcast du temps qui fait mordre la poussière aux clichés qui collent au basque des sportives, proposé par Pascaline Sordet. À dans 15 jours!